Mis à part les masochistes, qui sont des gens très particuliers parce qu'ils prennent du plaisir dans la douleur, les personnes normalement constituées n'aiment pas recevoir des coups de bâton. Malheureusement, et comme le dit si bien Job, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Bouddha aussi aurait dit « souffrir c'est la vie et la vie c'est souffrir ». C'est effectivement le lot de tout être humain et les enfants de Dieu n'en sont pas exempts. Dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur écrit que face à l'épreuve, le croyant peut avoir plusieurs réactions différentes. Premièrement, la prendre à la légère, c'est-à-dire la rejeter, ne pas en tenir compte. C'est un peu l'attitude fataliste qui dit « tout le monde a des ennuis et moi aussi ». Deuxièmement, il peut se décourager et se lamenter disant « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? Je ne le méritais pas ». Troisièmement, il peut aussi supporter l'adversité, la considérer sous un aspect positif, sachant qu'elle vient de Dieu dont l'objectif pour tous ses enfants est qu'ils apprennent à vivre d'une manière juste et dans la paix. Suite à ces remarques, l'auteur continue et dit « c'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. » Verset 12. C'est pourquoi est l'une des nombreuses transitions qui sont utilisées dans les Écritures pour marquer le passage entre l'enseignement d'une vérité et son implication dans la vie courante. Il ne suffit pas de posséder le savoir, il faut aussi le mettre en pratique. Après avoir longuement expliqué et illustré ce qu'est la vraie foi, l'auteur dit en substance « maintenant, foncez ». En mentionnant les mains qui faiblissent et les genoux qui fléchissent, l'auteur utilise encore la course comme métaphore. Quand on court, l'action des bras est importante parce qu'elle sert à coordonner le mouvement du corps avec le rythme des pas. Or, les bras qui faiblissent sont le premier signe de fatigue d'un coureur. Le second est la foulée qui ralentit à cause des genoux qui sont de plus en plus lourds à soulever. La solution est alors de se concentrer sur le but visé, comme le coureur grec en l'honneur de qui on a créé le marathon. Il voulait arriver le plus vite possible parce qu'il brûlait d'impatience, voulant annoncer à ses concitoyens la victoire des Grecs sur les Perses. Aux Israélites découragés par l'état décadent de leur nation et l'annonce du jugement imminent, le prophète Ésaïe leur rappelle la venue du royaume millénaire où ils verront la gloire de Dieu et il ajoute « fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants ». Le croyant qui est engagé dans la course de la vie chrétienne et qui se sent faiblir peut se ressaisir en agissant à deux niveaux. D'une part, en gardant les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, comme l'a dit l'auteur au début de ce chapitre. Et d'autre part, en encourageant les autres à en faire autant. Précédemment, l'auteur a dit « encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Lorsque j'encourage quelqu'un à persévérer, je me parle à moi-même. Je continue le texte. Que vos pieds suivent des pistes droites pour votre course, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt qu'il se raffermisse. » Verset 13. Nous sommes toujours avec la métaphore de la course. Le mot pour piste décrit la trace laissée sur le chemin par les roues d'un chariot. L'auteur demande donc à chaque participant de rester dans son couloir, sachant que celui qui en sort est automatiquement disqualifié. Une sentence des sages tirée du livre des Proverbes dit « que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal. » Fin de citation. Que vos pieds suivent des pistes droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Le mot pour boiteux est aussi utilisé dans l'ancienne version grecque quand le prophète Élie dit au peuple « jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. Le prophète reprochait à ses compatriotes d'être assis entre deux chaises, d'hésiter entre l'Éternel et l'idole Baal, et il voulait qu'ils choisissent leur camp. Ici, l'auteur s'adresse à des Hébreux qui se disent croyants, mais gardent encore un pied dans le judaïsme pour éviter les persécutions dont ils feraient l'objet s'ils abandonnaient complètement la religion juive. Ce sont des sympathisants chrétiens, mais qui vont manger à plusieurs râteliers en quelque sorte. L'auteur considère leurs pas hésitants vers Jésus-Christ et les exhorte à les transformer en grandes enjambées, à s'engager résolument dans la course de la foi. Je continue le texte. Recherchez à être en paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Verset 14. L'auteur exhorte ses lecteurs à ne pas avoir de conflit avec les gens qu'il côtoie, qu'ils soient croyants ou pas. L'apôtre Paul écrit « Il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde. » Si je suis obligé d'être en compagnie de gens belligérants, c'est leur problème. Mais ça ne me donne pas une excuse pour agir comme eux. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pour avoir accès à Dieu, il est nécessaire d'être absolument parfait sous toutes les coutures. Seulement, personne en lui-même ne correspond à ce profil. La sanctification est de deux ordres. Sont déclarés saints ou sanctifiés et justes tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus parce que leur position est en Christ. Deuxièmement, la sanctification est aussi un processus auquel tous les croyants participent. Il consiste à devenir de plus en plus saints dans la pratique, dans sa façon de vivre ici-bas sur terre. Quand l'auteur dit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur », il rappelle aux Hébreux, qui sont des sympathisants chrétiens, que leur allégeance de surface ne fait pas d'eux des saints, et donc qu'il leur faut s'engager franchement pour le Christ. Je continue le texte. « Veillez à ce que personne ne soit exclu de la grâce de Dieu, qu'aucune racine empoisonnée ne produise des rejetons, cause du trouble et n'infecte plusieurs autres. » Verset 15. Les vrais croyants doivent être sur le qui-vive à l'égard de ceux qui se joignent à eux, mais qui ne sont que des spectateurs, afin qu'ils prennent conscience des enjeux de la foi et placent leur confiance en Jésus. Ce passage vise les Hébreux qui se berçaient d'illusions, pensant être chrétiens, mais sans l'être vraiment. Non seulement les vrais croyants doivent prendre en charge ceux qui ne le sont pas encore, mais il faut aussi qu'ils sanctionnent les brebis galeuses. Il suffit d'une pomme pourrie dans un panier pour contaminer toutes les autres. Moïse a dit au peuple d'Israël qu'il n'y ait parmi vous personne, ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne dès aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller rendre un culte aux dieux de ces nations. Craignez qu'il n'y ait parmi vous une racine d'où naîtraient des plantes aux fruits vénéneux et amers. L'auteur exprime la même idée quand il dit « Veillez à ce qu'aucune racine empoisonnée ne produise des rejetons, cause du trouble et n'infecte plusieurs autres. » Cet avertissement s'adresse aux Hébreux qui s'identifiaient aux croyants, mais dont le cœur n'était pas droit parce qu'il n'avait jamais vraiment quitté le paganisme. Ici, l'auteur est particulièrement sévère car il assimile les Hébreux qui gardent un pied dans le judaïsme à des idolâtres. Lorsque des apostats quittent l'Église, de même, tout est bien car la purification se fait toute seule. Par contre, quand ils restent dans l'assemblée et tentent de répandre le poison de leur fausse doctrine, la situation est très grave. L'apôtre Paul a souvent été confronté à de tels agents infectieux qu'il appelait des judaïsants. Ces gens disaient croire en Jésus-Christ, mais prêchaient qu'il fallait aussi obéir aux préceptes de la loi de Moïse. Je continue le texte de l'épître aux Hébreux. Veillez à ce qu'il n'y ait personne qui vive pour satisfaire la chair ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Versets 16 et 17. Selon les Écritures, Ésaü est vraiment un triste personnage, presque aussi ignoble que Judas. Le péché de tous deux est d'avoir résolument rejeté le don de Dieu en étant conscient de ce qu'il faisait. Ponce Pilate était un sale type, un arriviste, un opportuniste, un faible, mais sa culpabilité est nettement moindre que celle de Judas. Ésaü était une brute épaisse, sans scrupules, qui n'avait aucune révérence pour Dieu. Il était parfaitement mondain avant que ce mot n'existe, car il vivait uniquement pour le présent et afin de satisfaire ses sens. Sa philosophie était « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Quand Ésaü s'est réveillé de sa torpeur et qu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu la bénédiction liée à son statut de premier-né, il a fait des pieds et des mains pour la récupérer, mais c'était trop tard. Alors il a versé des torrents de larmes, pas de repentance, mais de dépit parce qu'il avait perdu l'héritage qui aurait dû lui revenir. Je continue le texte. « Car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une réalité que l'on pourrait toucher, un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges en fête. Versets 18 à 22. Tout être humain sera jugé soit par la loi, soit par la grâce, en fonction de ses propres accomplissements ou de l'œuvre du Christ. Dieu a deux livres. Dans le premier sont écrits les noms de ceux qui rejettent Jésus-Christ. Ils seront donc jugés selon leur propre justice. Le second est le livre de vie et il contient les noms de ceux qui ont accepté Jésus. Parce qu'ils ont placé leur confiance en lui, ils seront mesurés selon la justice du Christ et non pas la leur. L'ancienne alliance est associée au mont Sinaï parce que c'est là que Dieu a donné la loi à Israël. Ces dispositions étaient implacables et il fallait leur obéir sous peine de sanctions et même de mort. Le don de la loi donna lieu à l'un des spectacles les plus terrifiants rapportés dans les Écritures. Par contre, sous le régime de la Nouvelle Alliance, l'auteur dit « Vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne, un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. » Il établit ainsi un contraste entre l'alliance terrestre, conclue sous le signe du jugement sur une montagne qu'il était impossible de gravir, et la Jérusalem céleste, symbole de la Nouvelle Alliance. Le don de la loi s'est fait au milieu de diverses restrictions imposées par l'Éternel. Les Israélites ont d'abord dû se purifier et ils ne devaient en aucun cas, ne serait-ce que toucher les bords du mont Sinaï. Dieu avait mené les Israélites en plein désert et loin de toute distraction afin de manifester sa puissance et sa sainteté. Dans ce but, il a déclenché un tremblement de terre, fait gronder le tonnerre, lancé des éclairs, et il a voilé la montagne d'une épaisse nuée et de ténèbres. Par toutes ces manifestations, Dieu voulait que son peuple prenne conscience de ses fautes et comprenne qu'il est impossible à l'homme pécheur de s'approcher de lui. Au peuple terrifié, Moïse a dit que s'il avait une crainte révérentielle de l'Éternel, s'il honorait sa sainteté et obéissait à la loi, il n'avait pas à redouter sa colère. Le Dieu du mont Sinaï est à craindre, car il est accompagné de jugements. Même le grand Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». En évoquant les circonstances du don de la loi, l'auteur avertit ceux qui songeraient à retourner aux pratiques du judaïsme qu'ils se placeraient à nouveau sous l'ancienne alliance faite de prescriptions obligatoires et de jugements. Au pied du mont Sinaï se trouve l'homme pécheur non pardonné, qui se tient devant un Dieu infiniment saint et parfaitement juste. Coupable et indigne, l'homme ne peut rien attendre d'autre que la condamnation et la mort. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, nous a déjà dit l'auteur. Quand la loi fut donnée au peuple d'Israël, 3000 Hébreux furent exécutés à cause de leur acte d'idolâtrie. Par contre, le jour de la Pentecôte, 3000 Juifs acceptèrent Jésus et furent sauvés. La mort accompagne la loi, tandis que l'annonce de la bonne nouvelle apporte la vie à tous ceux qui croient. La loi est le miroir de Dieu. En le regardant, on se voit tel qu'on est et je constate que je ne suis pas très beau et incapable d'obéir d'une façon absolue à un seul commandement, que ce soit en pensée ou en acte. Or, la loi ne fait aucune exception et n'accepte pas la moindre excuse pour mon obéissance moins que parfaite. La loi m'écrase et me tue à cause du péché qui est en moi. L'apôtre Paul écrit « Ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Je continue le texte de l'Épître aux Hébreux. « Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. » Verset 22. « Les Yébousiens, descendants de Canaan, l'un des fils de Noé, occupaient la partie montagneuse du sud de la Palestine. Josué tua leur roi, incendia Yébus, leur capitale, et donna leur territoire à la tribu de Benjamin. Mais les Yébousiens se sont maintenus dans la citadelle, la partie fortifiée de leur capitale, et cela jusqu'à ce que David devint roi. Finalement, il s'en empara et en fit sa capitale qui devint Jérusalem. Depuis cette date, Dieu en a fait sa résidence terrestre. Je lis un passage. L'Éternel a fait choix de Sion. Oui, il l'a désiré pour résidence. C'est le lieu de ma paix où je résiderai toujours. C'est ici que je régnerai, dans Sion que j'ai désiré. Fin de citation. Jérusalem se trouve sur le mont Sion, qui est un synonyme pour la ville sainte. La loi est représentée par le mont Sinaï qui offrait un spectacle terrifiant et quiconque en touchait ne serait-ce que les abords était frappé de mort. Par contre, la grâce et la nouvelle alliance sont symbolisées par la montagne de Sion et ceux qui veulent peuvent s'en approcher. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Sur le mont Sion, l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Fin de citation. L'apôtre Paul utilise aussi le mont Sinaï et Jérusalem pour illustrer l'ancienne et la nouvelle alliance, deux différents types de relations avec Dieu. Il écrit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, et encore, nous sommes enfants de la femme libre ». Par définition, la loi est faite de commandements qui, s'ils ne sont pas respectés, entraînent le jugement. Il s'ensuit que personne ne peut trouver le salut en obéissant à la loi. Par contre, et comme son nom l'indique, la grâce porte en elle le pardon et le salut. N'importe qui peut être sauvé par la grâce. Quand l'auteur dit « Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste », il s'adresse aux Hébreux qui sont déjà croyants, mais aussi à ceux qui sont assis entre deux chaises, afin de les encourager à persévérer, à marcher droit devant eux, pour ainsi dire, et à ne pas faire marche arrière pour retourner aux pratiques du judaïsme. C'est son souci constant et permanent tout au long de l'Épître. La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant et la Jérusalem céleste sont trois images pour le royaume des cieux. Précédemment dans l'Épître, l'auteur a dit d'Abraham qu'il attendait la cité aux fondements inébranlables dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Cette cité est la Jérusalem céleste, aussi appelée Nouvelle Jérusalem dans le livre de l'Apocalypse. Ce sera la demeure spirituelle de tous les rachetés pour l'éternité. C'est aussi là que se trouve leur héritage. Ici-bas, les croyants ne sont que des ambassadeurs, car leur véritable citoyenneté est dans les cieux. Enfin, l'auteur dit aussi « Vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste » avec ses milliers d'anges en fête. Selon les Écritures, il existe un nombre astronomique d'anges qui habitent les cieux. Je lis deux passages. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Fin de citation. Pendant toute l'éternité, les rachetés se joindront à eux pour louer l'agneau de Dieu, leur sauveur.